Ce message, j'aimerais vous proposer la lecture de deux textes. Le premier se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 1, où l'évangéliste et l'apôtre Jean, écrit à l'Église, avec cette affirmation dans laquelle il dit, 1 Jean 1, versets 1 à 4, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, » il parle de son équipe, hein, « ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. » Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur votre cœur. » Voilà comment l'histoire a commencé. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'un jour une histoire a commencé. Et cette histoire s'est passée dans une région de la Palestine, hein, en Judée, avec des Galiléens. Tout a commencé avec le Seigneur et une poignée d'hommes. Alors, la Bible nous dit que dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, eh bien, pour Jésus était venu le temps de choisir parmi les disciples qu'il l'avait suivi, 12, pour les établir. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Voilà quelque chose qui était important pour lui. Ce n'est pas une décision qui a été prise comme ça, ni une décision importante pour laquelle il a prié une heure. Mais il a prié toute la nuit avec Dieu, et quand le jour parut, il appela ses disciples. On imagine une troupe d'hommes, hein, qui sont là, voilà, peut-être 50 ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il y a Simon Pierre, André son frère, Jacques Jean, Philippe Barthélemy, il y a Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, un autre Simon appelé le Zélote. Il y a Jude, donc fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Les disciples ont été choisis et ce fut la décision d'une importance capitale pour Dieu. Il s'agissait de choisir des hommes capables d'établir le plus grand projet de Dieu avec les hommes. Le projet du salut a été accompli par Christ seul, mais Dieu avait un projet qu'il allait faire avec des hommes au travail, c'était l'Église sur terre. Pendant 3 ans, Jésus va former, il va enseigner, il va transmettre, particulièrement à ces 12-là. Et à leur tour, ils vont former, transmettre et enseigner à d'autres. Sans armes, sans combat violent, sans agression, ils vont conquérir et atteindre le monde. Le jour de l'ascension, alors en France, nous passons l'ascension sur les routes, hein. Mais pour eux, c'était un acte important, le jour de l'ascension, il le dit, et c'est Jésus qui le dit, vous recevrez pour votre mission une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà de nouveaux témoins, non pas de Jéhovah, mais témoins de Jésus. Hein? Moi, j'aime bien montrer ce texte, j'ai déjà dit, aux témoins de Jéhovah. Jésus ne dit pas d'être témoin de Jéhovah, mais d'être témoin de Jésus. Trois siècles après, eh bien, face à l'Empire romain, le christianisme a déstabilisé tout un monde. L'esprit a vaincu la chair, l'amour a vaincu le glaive, et la lumière a vaincu les ténèbres. Alors à tel point que plus tard, Napoléon dira, alors je suis pas fan de Napoléon, pas trop, hein, mais bon, il a marqué l'histoire, et puis en fait c'est 100 ans aujourd'hui, enfin, cette année de décès, eh bien il a dit ceci, entre autres sur Jésus, « Je connais les êtres humains, et je peux dire que ce que Jésus de Nazareth, que ce Jésus Nazareth n'était pas qu'un simple humain. Les esprits superficiels voient une ressemblance entre Jésus et ceux qui ont fondé des empires, ou peut-être des dieux des autres religions, mais cette ressemblance n'existe pas. Tout demeure grand, d'une grandeur qui accable. Ce que Jésus a porté est une révélation nous parvenant d'une intelligence qui n'est certainement pas humaine. » Quand un grand de ce monde dit quelque chose d'aussi merveilleux, c'est qu'il plie le genou devant le Seigneur. Alors les apôtres ont été choisis et le critère pour eux, c'était qu'ils devaient être des témoins oculaires. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont touché. Ce qui était dès le commencement, nous dit Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, contemplé de nos mains et touché concernant la parole de la vie. Voilà un groupe qui a accompagné Jésus durant tout son ministère terrestre. Acte 1, il est même dit que, ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il faut qu'il en soit un qui soit avec nous témoin de sa résurrection. C'était quelque chose qui était affirmé pour remplacer Judas qui avait trahi. Et ils ont choisi Matthias. Donc il y avait vraiment un critère. Nous ne pouvons pas dire que l'équipe de base était une équipe qui a été choisie au hasard. C'est une équipe qui a été témoin. Pourquoi témoin? Qu'est-ce que cela veut dire, être témoin? Eh bien, être témoin, c'est a une grande valeur dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, les témoignages sont remis en question. Aujourd'hui, on signe des documents, on me dit, bon, mais vous avez quand même signé. Oui, mais ça ne compte pas. Dans le Nouveau Testament et dans la parole de Dieu, être témoin est quelque chose d'absolument sérieux, même devant les tribunaux. Dans la loi de Moïse, c'est Frédéric Godet qui nous dit ça, la loi de Moïse avait consacré et reconnu la nécessité du témoignage oculaire en matière pénale ou criminelle. Et dans la pratique de la vie ordinaire, des témoins étaient fréquemment appelés dans le cas où, chez nous, la signature et le cachet suffisent. Et encore, la condamnation d'un homme accusé de meurtre ne pouvait avoir lieu que sur l'accusation de deux ou trois témoins. C'est important de raconter ce qu'on a vu. Et deux ou trois permettaient d'avoir une vision plus globale. Dans le Nouveau Testament, le mot « témoin » est repris, en grec « martyr »,« martyros hein, », qui a donné le mot « martyr ». Eh bien, c'est un groupe de mots « témoin », »,« témoigner », en rapport avec la révélation et en rapport avec la vérité. Dieu est invoqué comme « témoin », Jésus est le témoin fidèle. Alors, quelle est la qualité première d'un témoin? Eh bien, c'est la fiabilité. C'est la confiance. Toute la société est basée sur la confiance. Vous savez, depuis la bourse à Wall Street ou à Paris, jusqu'au petit commerçant qui est au coin de chez vous, c'est une relation de confiance. D'ailleurs, même les politiques luttent avec cette idée de confiance parce que les gens ne font plus confiance aux politiques. Alors, ils essayent de nous dire qu'ils sont des gens sur qui on peut compter. Et nous entendons parfois certains dire « la science dit hein? ». Bon, même si il n'y a pas de vérification. Hein, pour dire que ce que je dis est vrai. Ou alors l'expression « ah, j'ai vu à la télé ». Ouais, donc ça veut dire « c'est vrai, c'est une certitude, je les ai même vus de mes yeux hein ». Voilà. Et en fait, ce que nous voulons transmettre, ce que nous recevons, eh bien, va influencer notre jugement. Ou alors, c'est l'histoire. Je connais quelqu'un qui, hein, le cousin du cousin, au cousin, je le connais. Ça veut dire, ce que je vous dis, il faut le croire. Parce que je l'ai entendu quelque part. Jésus va former 12 témoins pour qu'il envoie pour qu'il forme et qu'il appelle d'autres témoins. Ce Christ, nous l'avons vu, dit Jean, et ils l'ont vu dans la gloire, dans la transfiguration. Vous savez, même à la croix, Jésus respirait une grandeur particulière. Même si Ésaïe nous dit que son visage était à peine reconnaissable et méprisé parce qu'il était déformé par la souffrance, il y avait quand même quelque chose de ce Seigneur, une humilité qui frappait ceux qui étaient autour de lui. Ils l'ont vu. Et ils ont vu sa passion, ils ont vu sa souffrance, ils ont vu sa mort. À tel point que même un centurion étranger à la vie religieuse a dit « Mais celui-ci doit être quand même le Fils de Dieu. Il est mort d'une manière tellement particulière. » Je suis sûr que quand Jésus rentrait dans une pièce, il marquait les gens et toute cette atmosphère, cet espace avec son humilité et sa vérité. Que dire de la résurrection ? Absolument extraordinaire. Que dire de l'ascension ? Absolument unique. Le témoignage des apôtres, la vérité, aujourd'hui on dit, chacun croit ce qu'il veut. Mais j'aime rappeler que nous croyons quelque chose qui est la vérité. Et plus nous avançons et plus nous serons attaqués, comme nous sommes attaqués sur la question de la vérité. Oh la vérité, chacun voit à midi à sa porte, hein. Il n'existe pas une vérité pour vous. Mais pour moi il existe une vérité, c'est celle de Jésus. Alors, les apôtres ont écrit, ils ont transmis, ils ont été même persécutés, et à la barre des tribunaux où ils ont été appelés, ils ont pu raconter, ils ont pu écrire et transmettre. Jean 20, verset 30, l'évangéliste nous dit, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais pourquoi est-ce que nous vous en parlons ?» Eh bien, nous écrivons ceci afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Voilà ce qui est le but de l'évangile, des écrits. Alors, si nous regardons plus en détail, de plus près les récits, nous voyons que ce n'est pas des récits comme Balzac ou les grands auteurs qui vont décrire la pièce, ils vont décrire comment était habillé, les couleurs, vous voyez, c'est pas du tout ça les évangiles. Hein. Ils ne transmettent pas le visage de Jésus. On aurait pu dire, quand même, à quoi il ressemble, hein. Il était comme ça, ainsi, on aurait aimé. Hein. Les évangiles sont simples et directs. Ils traduisent une histoire sincère. Bien sûr, il existe beaucoup de livres sur Jésus, hein, même du premier siècle. Alors, ça ne veut pas dire qu'un écrit ancien est un écrit sûr. Ça, c'est un traducteur de la Bible qui m'a dit, un chercheur. Mais ce n'est pas parce qu'un écrit date du premier siècle et non du deuxième, que celui du deuxième est moins sûr que le premier. Il faut vérifier, confronter. C'est pourquoi l'Église a écarté l'évangile de Thomas, qui nous présente un Jésus... vous savez, qui prononce des paroles, mais voilà, il faut découvrir ces paroles, alors que tout a été dit dans les évangiles. Ou l'évangile de Judas. Alors, l'évangile de Judas est tout particulier parce que Jésus a pris à ses côtés Judas, qu'il a affectionné plus que les autres. Et les autres ont détesté Judas. Voilà, c'est Judas qui le dit, hein. Et finalement, Judas a accepté de livrer Jésus pour sauver l'humanité. Hein. Ça ne correspond pas à ce que les apôtres ont écrit, ont vécu. C'est pourquoi on a besoin de voir la véracité de ce qui a été écrit. Ce qui m'étonne le plus, c'est que les apôtres eux-mêmes témoignent par le Saint-Esprit de leur propre faiblesse. Moi, si je devais faire un film de ma vie, qui peut-être ne vous intéresserait pas, mais j'essaierais de le rendre vraiment super, j'enlèverais ce côté défaut, vous voyez, comme Hollywood, hein. Et les apôtres n'ont pas du tout enlevé ça des écrits. Ils ont laissé transmettre leur faiblesse. Ils ont laissé transmettre leurs fautes, même leur incrédulité. Regardez ce que nous dit Matthieu 28, chapitre 16, 17. Matthieu 28, à la fin de l'histoire, il est dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée, et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Et quelques-uns, ah ça moi j'aurais pas marqué, hein. J'aurais dit, les gars, il faut s'arranger là, hein. On va dire qu'on était tous ok, on était tous d'accord, on était tous boostés. Pas du tout. Ils se sont interrogés et ils ont dit, tu y crois toi? Mais on l'a vu. Oui, mais j'ai des doutes. Si j'avais été Pierre, j'aurais dit, n'écrivez rien sur mon reniement, surtout. Hein? Surtout n'écrivez rien. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Imaginez Thomas qui va dire, attendez, vous n'avez pas écrit ça quand même sur moi. Ils ont laissé faire. Parfois, j'imagine que Jude et Jacques, fils d'Alphée, on ne sait rien d'eux. Vous exagérez quand même, les gars. Il n'y a rien sur nous, là, sur ce papier. Voyez la véracité. Pareil pour l'histoire des rois d'Israël. Dieu dit, c'est un mauvais roi. L'écrivain écrit, c'est un mauvais roi. Et le mauvais roi dit, oui, je suis un mauvais roi. Voilà. Alors que, allez voir les pharaons et les rois de ce monde, tout est merveilleux dans ce qu'ils font. Hein? Ce qui a été écrit a vraiment, réellement été vécu. Jésus a voulu prier une heure avec ses apôtres. Ils n'ont pas pu tenir le niveau de cette prière la nuit où il fut livré. Alors bien sûr, on écrit, nous-mêmes nous n'écririons pas de cette manière. Mais eux l'ont écrit avec sincérité. Vous savez, les études ont montré que les témoins ont tendance à montrer toujours leur meilleur côté des choses. Hein, nous l'avons dit, quand il s'agit des paroles de Jésus, là il n'est pas question de montrer notre meilleur côté. Il est question de montrer la vérité. Alors il aurait pu se trouver des excuses, hein, mais ils ne l'ont pas fait. Mais on peut être sincère, très sincère et se tromper, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça. Hein. Alors notons qu'ils ont éclairé non pas leur propre vie, parce que ce n'était pas leur but en tant que témoin. Un témoin ne focalise pas sur lui, comme Bernard l'a dit. Hein. Ce n'est pas notre nombril qui intéresse le monde, mais c'est véritablement la personne de Jésus. Et ce qui est plus remarquable, c'est que ces hommes, ces Galiléens, ces 12 ont vraiment influencé le monde. Des gens sans instruction, c'est à Jérusalem, on est considéré comme des moins que rien, hein, des provinciaux. Voilà, nous, on est à Paris, on est à... Mais eux, c'est des provinciaux. Hein, ok. Mais ils ont influencé et touché le monde, quel que soit le lieu, quelles que soient les époques, quelle que soit la situation des hommes, et quelle que soit leur culture, l'Évangile à toucher des gens. Ce message d'espoir, c'est un message qui concerne tout homme. Parce que nous avons tout ça en nous. Même celui qui se dit absolument athée, cette recherche de quelque chose qui est au-dessus de lui. Le même besoin, le même espoir, la même attente d'un sauveur. D'ailleurs, tous les films sont basés sur un sauveur. Il vient, il sauve l'humanité. Mais on aura un jour l'occasion d'en parler, de faire ce parallèle entre ce que dit la Bible et ce que les gens par lesquels les scénaristes sont inspirés. Alors, à chaque fois que quelqu'un découvre l'Évangile, c'est comme si la vie de Jésus, voilà, rejaillissait, n'est-ce pas? Un grain de blé qui est planté, un grain qui porte vie. À chaque époque, les mêmes questions, les mêmes doutes. Est-il vraiment ressuscité? Est-il celui qu'on doit attendre? Est-il celui qui doit venir? Est-il le Sauveur? Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même dans l'Ancien Testament, le même dans le Nouveau Testament, mais le même pour tous les hommes, Jésus est le même. Et parfois, nous limitons notre témoignage en disant, mais Seigneur, il n'est pas capable de comprendre ce que moi je vis, parce qu'il ne croit pas en toi. Méfions-nous de ce que Dieu est capable de faire. Nous ne sommes pas dans les cœurs des hommes. Après, que s'est-il passé? Eh bien, après, il y a eu les 12, il y a eu celui que Dieu a choisi, l'apôtre Paul. Ça, c'est intéressant parce qu'il va choisir un opposant farouche. Et je pense que le choix de Dieu s'est volontairement dirigé vers quelqu'un qui était contre. Il est facile d'avoir quelqu'un qui est pour. Hein. Mais quelqu'un qui est contre et qui a persécuté l'Église, ça c'est vraiment embêtant. En plus, au niveau, alors Bernard nous a parlé de la maturité spirituelle. Alors je peux vous dire qu'au niveau maturité spirituelle de l'Ancien Testament, de la loi pharisienne, Paul c'était le top, c'était le modèle. Lui a plié les genoux parce que Dieu l'a choisi pour être son témoin. Alors il va confirmer que le Jésus au temps d'Hérode est celui qui, bien qui est assis à la droite de Dieu, qui est le Sauveur. Il va confirmer que le Jésus des Juifs est aussi le Jésus des païens. Alors, il n'est pas opposé aux autres apôtres, même s'il n'a pas été reconnu hein, par l'Église au départ, et on peut le comprendre. Hein. Par contre, il dira dans 2 Corinthiens 12:12 que les signes distinctifs d'un apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, dit-il aux Corinthiens, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, la vie de Paul validait le fait que Dieu l'avait choisi comme apôtre. Vous savez, des fois, on entend dire qu'il y a la doctrine de Jésus et la doctrine de Paul. C'est absolument faux. Paul a transmis la doctrine qu'il a reçue de Dieu. Voilà un témoin à son tour glorieux. Et puis, il y a eu l'histoire de l'Église. Vous savez, la réforme. Hein, il y a eu les pères de l'Église et puis les pointillés. Et puis, au XVIe siècle, on a remis le témoignage donc en place, on l'a remis en première place. Et l'année prochaine, donc 2022, nous fêterons les 100 ans des brigadiers de la Drôme. Hein. Alors là aussi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1922, il y a eu une résurgence, une expression encore des témoins de Jésus. Et c'est Édouard Champenal qui a écrit ceci, que... On n'est pas en retard, là. Hein. Oups, ouais. Bon, Paul. Ah, tadam. Hop, voilà, la réforme. Avec Luther, Calvin et d'autres. Voilà, 1922. Hein. C'était en 1922... La France pensait, dit donc Édouard Champenal, la France pensait ses plaies avec 1 million de morts de ses enfants qui avaient péri sur les champs de bataille de l'Argonne et devant Verdun au cours de la plus cruelle guerre. Elle achevait de relever ses ruines et reprenait le rythme habituel de son existence. Le but de la France à l'époque était, en 1922, qu'il fallait absolument oublier les années terribles. Le monde cherchait une vague de bonheur. Que faisait l'Église à cette époque? Eh bien, elle vivotait entre ses murs, les murs de ses sanctuaires, contraint par les événements, car de nombreux pasteurs avaient dû abandonner leurs troupeaux pour rejoindre l'armée. Et la paix revenue, l'Église semblait destinée à retrouver son train-train coutumier. Très rapidement, de nombreuses questions se pressèrent dans leur esprit inquiet. Quelle place la pensée de Dieu occupe-t-elle chez ces rudes travailleurs de la montagne et de la plaine? Où donc se manifestait une vie chrétienne authentique? Pouvait-on compter sur la collaboration des conseillers presbytéraux qui ne venaient même pas au culte dominical? Et le réveil vint. Il prit naissance dans une annexe d'une église la plus déshéritée de la montagne, en plein été. Alors que la moisson et les travaux des champs retenaient la population, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, sur ces hommes et sur ces femmes, harassés de fatigue, retentit un message de puissance convaincante, Dieu d'abord. Le réveil de la Drôme est sorti tout entier de cette affirmation répétée, sans nous lasser, Dieu d'abord. Dieu est Dieu, Dieu est grand, Dieu est saint, et Dieu ne veut pas se contenter de ce que vous êtes. Et ce mot d'ordre inattendu remplit les temples, délabré de la montagne d'une foule d'abord étonnée, puis courbée dans le repentir et les décisions profondes. Alors quand il dit que Dieu ne veut pas se contenter de ce que vous êtes, c'est vous êtes dans vos péchés. Hein ? Au contraire, Dieu veut se contenter de ceux qui ont faim et soif de lui. Alors des brigadiers, c'est-à-dire des témoins, ne tardèrent pas à être appelés en dehors de leur territoire. Puis, pour y présider des semblables réunions. Puis ce fut l'époque de la brigade à travers les provinces de France, puis en Suisse, puis en Belgique, jusqu'en Algérie. Et les flamèches de feu qui avait pris naissance dans la Drôme, vint rallumer de nouveaux foyers vivifiants dans toutes les régions visitées. Que reste-t-il de cette flambée de l'esprit près de 100 ans plus tard? Mon frère, ma sœur, cette époque et cette transmission du témoignage des apôtres me touche beaucoup. Que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il? On se réjouit quand des mouvements de réveil ou spirituels naissent dans le monde, hein, et on est content, merci Seigneur, gloire à Dieu. Ce qui se passe ailleurs, c'est formidable, mais que se passe-t-il chez nous? Dans notre région, dans nos villages, dans nos églises. Et la question que peut-être ce matin on pourrait se poser, sur laquelle on pourrait réfléchir, c'est jusqu'à quel point notre conscience intérieure est-elle visitée par ce désir d'être des témoins de Jésus? Est-ce seulement une pratique du dimanche? On est bien, on est content, on s'est vu. Hein? Est-ce seulement une habitude qui nous rassure? Ou est-ce que nous voulons plus? Plus intérieurement? Même si nous rentrons dans le travail de ce que les autres ont fait, nous avons toujours besoin de corriger le tir et de revenir à Jésus. Constamment. Toujours. Nous avons besoin d'être des témoins vivants, des lettres de Christ. Regardez ce que dit Paul. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire votre cœur. Et j'aimerais vous laisser deux questions. Deux questions qui m'ont accompagné, que j'aimerais partager avec vous. La première est celle-ci. Les autres peuvent-ils avoir une idée de ce que le Saint-Esprit peut faire en observant ma vie? Les autres peuvent-ils avoir une idée de ce que le Saint-Esprit peut faire en observant ta vie? Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle-ci. Les autres peuvent-ils avoir une idée de qui est Jésus en lisant ta vie? Une idée de qui est Jésus en lisant ta vie. Ça, on entend beaucoup le fait qu'en France, la France devient un pays athée. En partie, mais c'est en grosse partie faux. 30% des discussions entre voisins concernent la religion. 31%. C'est quelque chose, hein? Alors, on nous martèle avec l'athéisme, hein? Quand on prononce le nom de Dieu à la télévision, on a l'impression que c'est un gros mot qui a été dit, vous savez. Oh, la personne doit se reprendre et s'excuser. Maintes fois, moultes fois, hein? Quand même. Est-ce que notre vie doit, dans notre témoignage, transparaître cela? Je suis sûr qu'avec moi, vous répondrez non. Nous avons un appel qui est celui d'être une lettre, un témoin de Jésus. Des lettres vivantes dont quelqu'un a dit, nous devrions mettre toute notre énergie à rester des témoins fidèles de l'Évangile plutôt qu'à nous plaindre, nous laisser distraire ou arrêter de combattre ou à nous juger les uns les autres. Ceci est le fruit de la religion, non de la personne de Christ. Alors j'aimerais vous laisser une dernière image, c'est celle-ci. Lorsque nous lisons les livres des Actes, alors ça commence par l'ascension, et je ne sais pas pour vous, mais le livre des Actes finit par... Il n'y a pas de fin. Alors un prof d'Ancien Testament que j'avais, bon il était un peu space, hein, il disait que les copistes avaient perdu la feuille, et mieux il disait que l'évangile de Jean, ils avaient tellement perdu les choses qu'ils ont mis ça dans le désordre. Bon, c'était sa bonne manière de voir, hein. Mais en tout cas, je suis sûr que, puisque Dieu est le maître de ce qui a été écrit, je suis sûr que ce livre est resté ouvert afin que nous puissions écrire notre part, notre page, notre histoire. Oui, Jésus est venu, il a fait des choses et il continue à intervenir. Si Jésus n'est plus présent en personne dans ce monde, il a d'autres envoyés qui sont chacun d'entre nous. Ces pages du livre des Actes jusqu'à aujourd'hui, à nous de les écrire avec ces deux questions. Est-ce que les autres peuvent avoir une idée de ce que peut faire le Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie? Les autres peuvent-ils avoir une idée de qui est Jésus en observant notre témoignage? J'aimerais que l'on puisse prier, avoir un temps de recueillement devant le Seigneur. Seigneur, tu es venu dans ce monde et en nous sauvant, tu as fait de nous tes enfants. Et en général, les enfants ressemblent à leurs parents. En voyant un gamin, on dit, tiens, il ressemble voilà, physiquement ou dans ses mimiques. Et je te prie, Seigneur, que ma vie, notre vie, te ressemble. Seigneur, tu nous as sauvés, mais tu as aussi fait de nous des témoins. Que dans notre cœur, l'endroit le plus profond et pierreux, tu puisses nous atteindre. Et nous secouer, nous interpeller. Que tu puisses travailler au plus profond de notre conscience, celle qui peut-être nous dit, mais oh, il n'y a plus rien à faire. Seigneur, que nos paroles, nos pensées, nos actes soient imprégnés de ta personne, afin qu'à notre tour, nous puissions être des témoins. Seigneur, peut-être qu'il y a une crainte dans nos cœurs, peut-être que nous n'osons pas, ou peut-être nous créons tellement d'obstacles. Seigneur, si nous ne craignons pas, alors nous pourrons craindre tout le reste, comme disait un de tes serviteurs. Mais si nous craignons Dieu, alors nous n'avons plus rien à craindre. Seigneur, fais grandir dans nos cœurs la crainte de ton nom et l'amour pour ta personne et pour les uns et les autres. Visite-nous, Seigneur, nous en avons tellement besoin. Seigneur, sonde-nous. Éprouve-nous, fais-nous passer par le tamis de ta parole, afin que nous puissions être des instruments à ta gloire. Et pour ta gloire, Seigneur, pas pour nous, pour ta gloire, dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen.